On est de retour à l'interview avec Alex et Thio sur la campagne d'affiliation de l'âge de flèche à Lassé, puis aussi, dans le fond, Lassé, mais qu'est-ce que...
Dans le fond, maintenant, on est rendu à la partie où est-ce qu'on va on va parler de la campagne de Lassé. Donc, je vais continuer avec mes questions pièges, comme Alex le disait. Donc, c'est quoi qui a été voté pour la campagne contre la privatisation présentement à Lassé?
En fait, bon, je vais expliquer un peu...
Tu peux-tu ouvrir le micro d'Alex, s'il vous plaît? Ouais.
Donc, je vais expliquer, en fait, d'où provient cette campagne-là, premièrement, en fait. Bon, ce que les gens ne savent pas, l'année passée, il y a eu une tentative de grève générale illimitée pour bloquer le dégel des frais de scolarité, puis d'essayer de mettre de l'avant la gratuité scolaire comme projet de société. Puis bon, ça s'est soldé par un échec, en fait. La grève n'a pas... A pas levé d'un point de vue national. Bon, elle a levé dans certains campus là, disparates, mais elle n'a pas eu autant d'impact qu'on aurait voulu. Donc, sur ces constats-là, on s'est rendu compte qu'il fallait refaire la base étudiante locale, la base militante, regagner l'appui sur les campus de la population étudiante. Et puis, bon, on a regardé les avenues qui auraient pu être devant nous pour mener une prochaine campagne. Puis les gens se sont rendus compte qu'une campagne sur la privatisation des services sociaux pourrait aider à... justement, à refaire cette base étudiante locale, là, par des initiatives locales, au niveau probablement des cafétérias privées, mettre des coops de travailleurs, travailleuses, des trucs comme ça, des projets étudiants, réappropriation des lieux publics, justement, qui se font de plus en plus fermer la porte par les administrations qui refusent qu'il y ait des assemblées publiques ou qu'il y ait des événements organisés par les associations étudiantes. Donc, la CIE a décidé, en avril dernier, dans son congrès annuel, de faire une campagne qui a pour titre, dans le fond, stoppons la privatisation des services publics. Cette campagne-là, en fait, il y a trois revendications principales qui sont rattachées à ça. Premièrement, un réinvestissement massif en éducation dans les programmes sociaux. Pourquoi ce réinvestissement-là? En fait, parce que un des graves problèmes, en fait, le privé, en fait, est vu un peu comme un sauveur au Québec, en fait. C'est qu'il y a des problèmes en éducation, en santé et tout. Il y a des files d'attente dans les hôpitaux. On se dit... Le privé va nous sauver la vie, va créer des nouvelles cliniques, des nouveaux hôpitaux, on va réduire les listes d'attente et tout. Donc, le privé, c'est une espèce de bon Dieu, en fait, si on veut. Là. Et tout ça à cause des engagements de l'État de plus en plus grands, en fait, qui laisse la place au privé d'investir, en fait. Et donc, on peut pas faire une campagne sur la privatisation sans parler de réinvestissement massif public, justement, pour justement stopper cette hémorragie-là et puis avoir des systèmes publics adéquats.
Peux-tu commenter un peu, c'est qui profite à cette privatisation-là? C'est comment est-ce que Lassé voit les raisons de la privatisation?
Ben en fait, c'est faut quand même remonter à loin là, pour ça. Là. Ça fait des années qu'il y a des idéologues néolibéraux qui mettent en place un scénario de privatisation des services publics un peu partout dans le monde. Pour qui, pourquoi? Ben pour leur intérêt personnel. C'est souvent des gens qui ont des moyens financiers importants, qui veulent en profiter pour investir dans ces programmes-là, parce qu'il y a de l'argent à faire là-dedans pour l'entreprise privée. Et puis en fait, c'est un peu c'est une logique là, mondiale, là, c'est qu'on on privatise les pertes, puis non, c'est le contraire, on privatise les revenus.
Puis on socialise les pertes.
Exactement. Donc, c'est un truc qui est vraiment fréquent. Tu veux dire, exactement, c'est un truc qui est fréquent. Donc, on tente un peu de combattre cette idéologie-là, en fait, globale. C'est pas une lutte facile, c'est quand même compliqué. Là. C'est juste, c'est tout un système, en fait, auquel on s'attaque, en fait. Nous, en fait, ce qu'on veut faire par rapport à ça, surtout, c'est une vaste campagne d'information populaire, surtout dans les institutions scolaires, mais aussi dans la population en général. Justement pour essayer de démystifier justement le privé puis les intérêts qu'ils ont justement dans les programmes sociaux comme ça.
On parle aussi de baisse de l'accès aux institutions académiques à cause des frais de scolarité. C'est à cause aussi de l'augmentation des frais de scolarité. C'est qui profite de l'augmentation des frais de scolarité? Est-ce que tu penses que c'est les banques, le gouvernement ou simplement un système qui essaie de reproduire une élite?
Ben c'est sûr que c'est un système aussi qui essaie de reproduire une élite, mais je pense que les banques en profitent beaucoup parce que ça favorise l'endettement étudiant. L'endettement veut dire prêt, prêt par les banques. Donc, les banques font de l'intérêt sur ça, en fait. Puis le gouvernement paye les intérêts dans tout le temps qu'on est aux études. Donc, la banque fait de l'argent. Puis quand l'étudiant ou l'étudiante termine ses études, eh bien, il faut qu'elle rembourse sa dette. en plus de l'intérêt qu'elle commence à payer 6 mois après justement avoir étudié. Donc, les banques en profitent énormément de cette hausse de frais de scolarité-là. Puis la hausse des frais de scolarité, c'est aussi une forme de privatisation aussi. Dans le sens, c'est une privatisation vers l'individu. Pas seulement vers l'entreprise, vers l'individu. On parle donc du principe d'utilisateur-payeur, en fait. Tu utilises un service, tu payes pour. Que ce soit l'éducation, la santé. Au Québec, on commence même à parler de routes, de ponts. Tu utilises, tu payes. C'est une privatisation vers l'individu, d'une richesse collective, en fait. C'est une déresponsabilisation de l'État face à l'individu. Et puis, c'est aussi... C'est une responsabilités au niveau financier, mais aussi au niveau idéologique, mettons, comme par exemple le système d'éducation, par exemple, de se dire qu'on vous donnait l'accès à l'ensemble de la population de pouvoir étudier, de s'enrichir collectivement. Maintenant, c'est relié à l'individu. Puis ça, c'est une forme de privatisation, là, claire. Là.
Et puis, c'est quoi le plan d'action présentement?
En fait, actuellement, on est en campagne d'information, donc on a sorti un journal à la rentrée pour informer les gens sur les campus. Tout récemment, on a sorti une revue qui parle justement de toute l'idéologie que je vous parlais tantôt, là, qui sous-tend la privatisation de ces services-là. On fait une revue qui est une campagne d'information. La revue, on peut la trouver sur Internet, notre site Internet à nous, en fait, qui est ac-solidarité.qc.ca, sans accent, là. Ça fait as-solidarité.qc.ca. À ce moment-là, une petite musique qui s'est mise à nos oreilles.
Ouais, c'est ça.
Ah, une erreur technique, c'est pas grave.
Ouais,
C'est ça. Donc, en fait, la revue est disponible sur Internet, mais vous pouvez aussi la trouver là, sur les campus. Vous pouvez peut-être appeler au bureau. On peut essayer de vous acheminer des copies et tout. Il y a ça qui est fait. Et puis, dans cette revue-là, le dernier congrès a adopté un manifeste sur les revendications de la campagne. Moi, je vous parlais d'un réinvestissement, mais il y a aussi... pour la démocratisation des instances. Et puis, il y a aussi, dans le fond, contre la logique privée, là, le parti de l'utilisateur payeur, je payais, que je parlais tantôt, lapsus. On a adopté un manifeste à notre dernier congrès, un manifeste qu'on peut signer en ligne sur le site de l'AC, mais vous pouvez aussi aller au nonauprivé.info, qui est justement le site du manifeste, où on invite la population justement à signer massivement le manifeste. On est aussi à la recherche d'appui des groupes syndicaux communautaires par rapport à ce manifeste-là. Puis le but, c'est de créer un débat public par rapport à tout ça. Et puis, en vue d'organiser une grande manifestation qui va avoir lieu le 26 mars prochain à Montréal. C'est des détails qu'on a pour l'instant. C'est encore quand même assez loin, le 26 mars. Mais quand même, c'est... ça, c'est le plan d'action à plus long terme. Sinon aussi, cet hiver, bon, tantôt, on parlait de... il va y avoir des journées de dénonciation d'entreprises privées sur les campus au mois de février prochain. C'est quoi ces journées de dénonciation-là? C'est d'identifier le privé sur les campus. Puis je vous parlais avec les associations locales. Le but, c'était de reprendre justement le plan d'action local puis d'essayer d'amener les alternatives sur les campus. Cette partie-là de la campagne, du plan d'action, en fait, ça veut ça. Donc, il y a plusieurs associations étudiantes qui vont mener des boycotts contre leur cafétéria, qui vont faire des actions contre le conseil d'administration sur leur campus pour dénoncer le privé qui est présent partout.
En fait. Okay. On va s'arrêter ici pour faire une pause musicale, puis on va revenir tout de suite après pour continuer l'interview. Ça sera pas bien long.
On est de retour en onde sur Saint-Félix à l'émission La Rage du Peuple. On continue l'entrevue avec Alex. T'es sur l'exec de l'AC, c'est ça?
Oui, exactement.
Ouais, ok, cool. Donc, on parlait de la campagne contre le privé de l'AC. J'aimerais ça savoir, dans le fond, vous voulez faire une campagne d'information sur le privé et vous voulez revendiquer du gouvernement un réinvestissement. En même temps, vous proposez l'autogestion des instances décisionnelles des milieux scolaires. Dans le fond, comment est-ce que l'autogestion des instances décisionnelles peut être plus efficace que de faire des revendications au niveau de...
En fait, dans le cadre de la campagne actuelle, la revendication claire, c'est pour la démocratisation des instances. Qu'est-ce qu'on entend par démocratisation des instances? On entend plus de place aux membres internes sur les conseils d'administration locaux, en fait. La position d'autogestion, c'est une position historique, c'est un principe de base de l'AC, en fait, où ce qu'on voudrait que les conseils d'administration soient, dans le fond, autogérés par les membres de la communauté directement. Mm-hmm. Notamment, ça passe par l'élimination, en fait, du privé, dans le fond, notamment sur les conseils d'administration. Puisque, bon, il y a plusieurs forme de conseil d'administration. Les cégeps, c'est une chose. Les universités sont toutes différentes, là, quelques trucs près. Puis il y a beaucoup de sièges qui sont alloués aux socio-économiques sur ces trucs-là. Donc, on parle de compagnies privées, on parle de trucs de placement d'emploi, de trucs comme ça. Ce qui amène l'éducation, si on veut, de plus en plus à un arrimage au marché, en fait, aux lois du marché. Puis nous, en fait, on s'oppose à ce principe-là, en fait. Puis d'ailleurs, en fait, tout récemment, la ministre de l'Éducation, Mme Courchaine, a déposé un projet de loi visant à mettre aux deux tiers l'entreprise privée dans les conseils d'administration.
Okay.
Ça, c'est un de ces nouveaux projets là, de loi qui, bon, peut-être vont tomber à l'eau à cause de la campagne électorale. Ça, c'est pas encore... C'est pas encore défini, mais bon, c'est le plus Parti libéral qui est élu, le projet va sûrement tomber à l'eau. S'ils sont réélus, vont-ils le reprendre en priorité ou quoi que ce soit? Ça, c'est... J'en ai aucune idée, en fait.
Puis vos rapprochements dans la lutte contre la privatisation avec les syndicats. Premièrement, comment est-ce que ça se développe? C'est quoi ta perspective là-dedans? Puis deuxièmement aussi, comment est-ce que localement, ça peut aboutir à une véritable autogestion ou dans le sens où est-ce que même les travailleurs vont pouvoir, dans le fond, produire quelque chose, là, finalement.
Au niveau des liens avec les syndicats, organismes communautaires par rapport à ça, on a reçu un appui, justement, aujourd'hui. La Trovette Montréal appuie le manifeste de la C, la campagne et tout. Donc, c'est possible aux organisations d'appuyer le manifeste de la C. Vous avez juste à aller sur le site Internet, puis bon, c'est expliqué comment appuyer la campagne de la C actuellement. Pour ce qui est au niveau de la campagne au local, en fait, il y a des gains importants qui se sont faits, notamment à l'Université de l'Outaouais. Je ne sais pas si on en a déjà parlé dans une émission récente. En fait, à l'Université de l'Outaouais, c'est une belle histoire, en fait. Ils ont lancé un boycott de leur cafétéria dès la rentrée scolaire. Ça a pris 3 semaines avant que la compagnie privée décide de résilier son contrat et de quitter l'Université de l'Outaouais, en fait. Actuellement, ils sont en essayer de trouver qui va remplacer la compagnie de la Liberté, en fait, sur place. Puis il y a les alternatives qui sont mises sur pied. Il y a les petits cafés étudiants qui sont en train de s'accréditer comme autogérés, dans le fond, des cafés autogérés par les travailleurs travailleuses même, là, des espèces de coop de travail, on appelle, qui sont en train de se former des projets pour les soumissions envers l'administration, en fait, pour justement que les employés, si on veut, reprennent le contrôle, justement, de ce qui est distribué puis de leurs conditions de travail, là. Donc ça, c'est un exemple concret de ce qui s'est passé sur le campus. Malheureusement, bon, ça l'a mené à des débordements répressifs de la part de l'administration, où il y a un étudiant qui a été suspendu, notamment de l'université, puis bon nombre ont eu des notes au dossier, là, une tâche sur ton dossier là, qui pourrait probablement nuire à tout ça. Là.
Je voulais en venir justement à la répression. Est-ce que spécifiquement sur le thème de la répression au milieu étudiant dans les derniers temps, est-ce que tu peux exposer la situation?
Pour finir avec l'UQO, l'Université d'Outaouais, aujourd'hui, il y avait une journée de grève. Dans 4 modules de l'Université d'Outaouais, on parle de sciences sociales, travail social, éducation et psychoéducation, dont 2 ont voté la grève à l'unanimité la semaine dernière. Ils faisaient une journée de grève aujourd'hui pour protester justement contre les sanctions qui avaient été faites sur les militants et militantes, dans le fond, qui ont tenté justement de se réapproprier ces milieux-là qui sont les cafétérias puis les cafés-bars. Donc ça, c'est un exemple. Les autres qui continuent la lutte là-bas, justement, pour essayer de faire tomber ces sanctions-là, puis il faudra démissionner. Je me souviens plus du nom exact de la personne de l'administration qui a justement initié ces démarches-là de suspension de notre dossier et tout. Mais pour parler plus largement de la répression, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de répression sur les campus. Je ne sais pas si c'est un mot d'ordre que la Fédération des cégeps puis celle des universités se sont donné. Mais la répression augmente dans le mouvement étudiant de façon vraiment incroyable. L'année passée, en fait, très bientôt, en fait, ça va faire 1 an, la quasi-émeute au cégep du Vieux-Montréal qui avait eu, notamment lors du Bédine, où il y avait eu 103 arrestations. L'association étudiante voulait organiser un Bédine où les gens pouvaient aller coucher, et puis l'administration a fait rentrer l'anti-émeute aux petites heures de la nuit, en fait, où il y a eu des teasers qui ont été utilisés, des gaz lacrymogènes.
Oui, c'est officiel maintenant, parce que mon côté, ça avait été un peu flou, cette histoire-là.
Mais cette question-là est toujours au flou, dans le sens que sur les 103 arrestations, je pense qu'il y en a 10 à peu près qui ont été maintenues, les accusations. Les autres ont tout tombé, dans le fond. L'histoire du teaser, en fait, c'est qu'il y a des gens qui arrivent, quelqu'un se faire teaser, mais dans tous les cas, je pense que c'est pas ça l'essentiel de ce truc-là. C'est juste une activité étudiante d'un bed-in qu'on a vu souvent a été clairement réprimée par l'administration et les forces policières. Après ça, il y a eu la grève à l'UQAM, où l'administration a tenté de faire freiner la grève, dans le fond, de la faire arrêter. La police est venue sur le terrain de l'UQAM à maintes et maintes reprises durant cette grève-là. Il y a eu des étudiants qui ont été suspendus de l'université, dans le fond, pour une période d'un mois. Et puis là encore actuellement, l'administration poursuit des gens individuellement pour des méfaits qui auraient été commis durant la grève, parce qu'ils ont réussi à faire, ils ont fait des poursuites collectives envers les associations facultaires, puis ils ont perdu. Et puis là, ils tentent de cibler les individus, justement. Ça, c'est un autre exemple de répression. Sinon, je vous parlais du cas de Lucot tout à l'heure. Si on prend l'exemple de Maisonneuve, il y a aussi un étudiant qui a été renvoyé du site de Maisonneuve tout récemment, en fait, il y a environ une semaine. L'association fait une lutte, justement, pour tenter de qu'il puisse revenir au cégep. En fait, c'est sa dernière session. Il restait 4 semaines d'école avant de rentrer à l'université, puis il a été suspendu de l'université. Il y a l'association à Saint-Jérôme, parce que l'administration tente de mettre le local de l'association dans le sous-sol, à une place complètement invisible, dans un micro-local. L'association lutte là-bas pour préserver son local puis garder une visibilité au sein de la population étudiante. L'exemple le plus abusif, j'ai l'impression, c'est ce qui s'est passé au collège Lionel Groulx à Sainte-Thérèse. L'association étudiante avait appuyé une initiative du MER, le Mouvement étudiant révolutionnaire, qui est en fait rattaché au PCR, le Parti communiste révolutionnaire. Il avait organisé le 8 octobre dernier, en fait, ça faisait 40 ans, les premières grèves étudiantes. Puis la grève étudiante avait commencé à Lionel Groulx, à Sainte-Thérèse, en fait. Et puis, il y avait des activités pour commémorer ça. C'était une journée de kiosque, une soirée, en fait, de kiosque, de débat, d'assemblée publique, dans le fond, pour parler du bilan du mouvement étudiant puis des perspectives pour l'avenir.
Affaire du PCA?
Oui, exactement, c'est
ben,
ça.
À mes nouvelles, il n'y a pas eu vraiment de débat parce qu'il y avait comme une personne qui parlait.
C'est un atelier qui devait s'ouvrir un débat, mais bon, les conditions ne se sont pas tenues dans des... Le débat n'a pas eu lieu, puis de toute façon, ce n'était pas dans un lieu propice à le faire. Parce que dans le fond, ce qui s'est produit, c'est que l'administration, dans le fond, a fermé le cégep complètement pour la journée. Donc, empêchant l'accès, justement, aux locaux et tout ça. Moi, j'ai pas été à l'événement en tant que tel. Mais bon, ce qui était prévu, c'était supposément des kiosques avec une atelier, dans le fond, sur le 8 octobre 68, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé. Faire une espèce de bilan, là, si on veut, entre guillemets, du mouvement étudiant de l'époque. Puis, il devait y avoir, justement, une assemblée publique où les gens pouvaient s'exprimer sur les perspectives maintenant à y avoir à ce niveau-là. Puis bon, en fait, le débat n'a pas eu lieu parce qu'il n'y avait pas accès à de locaux et tout ça. Fait que le monde était rassemblé dehors sur une table de pique-nique. Il faisait froid, il n'y avait pas de lumière, etc. Fait que l'événement, finalement, je ne sais pas si on peut dire que ça a été un échec ou quoi que ce soit, mais bon, il n'y a pas eu, mettons, les répercussions voulues de la part des organisateurs, des organisatrices. Donc, en fait, ce qui est vraiment dramatique dans cette histoire-là, à défaut qu'il y ait eu des débats ou non, c'est que l'administration et la police ont fermé durant une journée un cégep complètement, de peur qu'il y ait des manifestations ou des représailles, quoi que ce soit.
Sous le prétexte qu'il y avait eu des bris techniques, dans le fond.
En fait, l'histoire est plus belle. L'histoire est vraiment... C'est vraiment une belle histoire, là. Je peux vous la faire rapidement.
Ouais.
L'association étudiante a reçu un message sur le répondeur d'une voix anonyme qui disait que le conseil d'administration allait être déplacé au Hilton de Laval. Le conseil d'administration devait avoir lieu le soir même. Et puis que le cégep allait être fermé pour panne de gaz le 8 octobre. Et puis, comme de raison, le cégep a téléphoné l'association pour le conseil d'administration disant « Le conseil d'administration est tassé au Hilton de Laval. » Donc, c'est comme une prophétie qui allait se réaliser sous peu. Finalement, l'administration a quand même a été claire sur le pourquoi elle avait fermé le cégep, en fait. Ils n'ont pas inventé un prétexte de fuite de gaz et tout. Ils ont dit « Il y a des groupes révolutionnaires qui doivent se pointer sur le campus. Donc, on ferme le cégep par mesure de sécurité. Donc, ils ont été clairs sur le pourquoi de la fermeture. Mais c'est ça qui est dramatique dans l'histoire, c'est qu'ils n'ont pas non plus averti les étudiants et les étudiantes d'avance. Les gens se sont butés à des portes closes le matin à venir en arrivant, ce qui est vraiment aberrant, en fait. Là.
Puis la communauté étudiante a pris ça comment? Est-ce qu'ils ont eu une impression... dans le sens que ça l'a tourné les étudiants contre le MER, ça...
Je
pas vraiment,
je sais pas, ben, je pourrais pas dire, j'ai pas de... J'ai été une fois sur le campus de Sainte-Thérèse depuis, mais j'ai pas senti de haine envers l'association nécessairement par rapport à ça. Okay. Probablement qu'il y a des gens qui ont été fâchés. Puis,
pour avoir vu des blocages de cours, là, ça peut devenir assez intense.
Mais probablement qu'il y a du monde aussi qui ont dit ben c'est bien débile ce que l'administration fait de fermer le cégep une journée pour ça, pour une activité qui doit se tenir en plus le soir, tu sais, donc. Qui aurait pu continuer les cours sans problème.
D'ailleurs, François Baillargeon du MER a été interviewé à Maisonneuve, puis l'animateur de l'émission de Radio-Canada lui-même trouvait que ça n'avait pas d'allure.
En fait, c'est à Paul Arcand, en fait, qui avait passé. L'entrevue est disponible sur Internet, là, pour les gens qui veulent plus de détails. Là, c'est pas moi qui connaît mieux le dossier, là, mais au 98.5, on peut trouver ça. C'était le 9 octobre, l'entrevue le lendemain du 8, exactement.
Super. Ben merci d'être venu, Thio et Alex. On va faire une courte pause. Puis, comment est-ce que les auditeurs et auditrices peuvent se tenir au courant de l'affiliation et des développements de la campagne, s'il vous plaît?
Ben en fait, ils peuvent toujours écrire au comité référendaire, qui est une instance composée de 3 personnes qui veillent à la bonne démarche du référendum. Donc, c'est à comité-referendaire@hotmail.com. Donc, en écrivant à ces gens-là, pourront vous donner toutes les informations. Sinon, sur le site de la GFLECH, il y a la politique référendaire en ligne avec les modalités de vote et les dates.
Toutes les personnes qui veulent bien donner un coup de main sont les bienvenues, je suppose?
Oui, effectivement. Autant d'un bord que de l'autre.
Puis pour la C, en fait, c'est les deux sites que je vous ai donné tantôt. Le site de la C, www.ac-solidarité.qc.ca, ou pour des informations plus précises sur la campagne, sur le privé, c'est www.nonauprivé.com, .info, en fait.